Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans cette émission aujourd'hui sous le signe des légendes et des merveilles. Avec tout à l'heure la chronique du magazine Books, notre partenaire, où Baptiste Touvray nous parlera de la légende arthurienne et des chevaliers de la table ronde, à l'honneur de la publication d'un nouveau volume sous la direction de Michel Pastoureau, entre autres. Mais pour l'heure, direction les Comores, où se déroule le nouveau roman de notre invité Toufat Moutar, qui réenchante le destin d'une jeune femme esclave en lui faisant vivre des aventures incroyables, dignes des héroïnes d'un autre monde. Une fiction débordante d'imagination que je vous propose de découvrir tout de suite avec cette très belle lecture de l'auteur du tout début de son livre intitulé « Le feu du milieu » aux éditions Le Bruit du Monde. Toufat Moutar.
C'était au mois de Muharram, durant la période des récoltes. Je n'ai jamais su nommer correctement les deux vents qui soufflent sur mon île. Lequel est le Kashkazi, lequel est le Koussi. L'ordre de leurs noms m'a toujours échappé, même à cette époque de mon 11e anniversaire. Je me souviens seulement que durant l'année, nous traversions toujours deux saisons, celle des pluies et celle des bourgeons qu'un vent frais caressait. Et qu'à cette seconde saison, Tamou était toujours sévèrement enrhumé. Sous la brise, les feuilles des manguiers se frottaient les unes contre les autres, comme les ailes des grillons. Celles des palmiers ployaient lentement à gauche, puis à droite, et j'aimais voir les laisseaux volter au-dessus des chevilles de mes camarades. La veille du jour de l'an, nous étions partis chercher du bois dans la forêt bordant la cité d'Itsandra, le bois d'Ahmad. Il n'avait pas plu depuis un mois. Le bois était sec, juste ce qu'il fallait pour prendre feu. Le sol de sable et de roche s'enfonçait sous la plante de nos pieds calleux. Nous marchions du pas sûr et déterminé des enfants à qui l'on a confié une mission qui leur donne de l'importance. Nous étions cinq à accomplir cette tâche. Mlima, Ramla, Maka, Olympe et moi. Lorsque nous parvinrent les parfums de mangue et d'eucalyptus, nous sûmes que nous étions arrivés à destination. Nous avions deux heures pour collecter un maximum de branches, les plus sèches possibles. Olympe délimita la parcelle dont nous allions nous occuper et nous répartit dans cinq sections. Une fois notre bois ramassé, nous devions nous retrouver à l'entrée de la forêt pour fagoter nos branches et nous aider mutuellement à les charger sur nos têtes. Je partis en direction des bosquets de Henné. J'étais ravie de mon affectation. Des manguiers et des lichimals y protégeaient les arbustes de leur ombre, et le sol était toujours jonché de leurs branches sèches. J'allais pouvoir cueillir des feuilles pour Tamou, celle qui tenait auprès de moi le rôle de mère. Lorsque j'approchais de ma zone, ma joie fut vite contrariée. D'autres avant nous étaient venues glaner du bois ici. Elles avaient laissé traîner des petits tas de branchages, trop fins pour brûler assez longtemps. Il me fallait chercher plus loin. Des rameaux obstruaient ma route et je dus couper à travers les pieds de citronnelle sauvage et les orties. Quand enfin j'atteignis le lieu où étaient tombées les plus grosses branches, j'étais hors d'haleine et hors de moi. Depuis ma naissance, il me semblait que quelqu'un s'amusait à placer des obstacles sur ma route, des obstacles visant à rendre vaines toutes mes actions. Ma mère, en premier lieu, trop jeune pour élever un enfant, elle avait tout simplement résolu de me tuer. C'est Tamou qui l'avait surprise, la main refermée en coupe sur ma bouche et mon nez, les yeux rougis par la rage. Tamou m'avait arrachée à ses bras meurtriers, et ma mère s'était enfuie là où personne ne la retrouverait. Ensuite, mon père, un commerçant des Indes, à ce qu'on disait. Un de ceux qui ne venaient pas souvent par ici, sauf pour chercher des plantes à parfum à revendre. Vanille, ylang-ylang, clou de girofle, herbe médicinale poussant sur la plage. Tamou disait que c'était ma mère qui l'avait charmé. Quoi qu'il en soit, il m'avait gratifié de la chevelure de paille, typique des bâtards engendrés par les commerçants indiens, ce qui me valait parfois d'être appelé par le nom de l'un d'entre eux, qui passait souvent par ici, Gaillard.
Bonjour Toufat Moutard.
Bonjour.
Et merci beaucoup pour cette très belle lecture, le tout début de votre roman, paru sous le titre « Le feu du milieu » aux éditions « Le bruit du monde ». Une fiction riche et ample qui nous fait voyager dans le temps, dans l'espace, entre réalité et légende, entre amour et amitié. Une explosion narrative qui interroge la question de l'identité, de la foi et du destin que nous choisissons ou subissons. À travers ce personnage dont on vient de faire connaissance, une jeune fille surnommée Gaillard. Cet enfant des Comores, c'est là où vous êtes née ?
C'est là que je suis née, oui. Ce n'est pas forcément là que j'ai grandi, parce que j'ai grandi à l'extérieur. Et quand je suis revenue, j'ai pu poser un regard d'observatrice, d'infiltrée, on va dire. Et c'est ça qui était très intéressant, c'est que je pouvais à la fois observer des gens qui partageaient le même terreau identitaire que moi, et en même temps être à l'extérieur, puisque je n'y avais pas forcément passé mon enfance.
Et c'est où l'extérieur ?
Alors l'extérieur, c'est l'Afrique subsaharienne. C'est le Burundi, le Congo-Brazzaville, le Mali, la Mauritanie aussi.
Donc je comprends un peu mieux maintenant aussi, compte tenu de toutes ces diverses origines, pourquoi il y a autant de vivacité dans votre récit qui a été nourri de plusieurs cultures. Mais dans quelle mesure vous avez été nourri précisément par votre enfance ? Est-ce que le feu du milieu naît aussi d'histoires qu'on vous a racontées à l'époque ?
Alors il naît, il faut savoir que les Comores sont un archipel qui est constitué d'un brassage ethnique très 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 important, très très fort. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on ne sait pas d'où sont venus ces mélanges-là. On ne sait pas d'où sont venus les apports. On sait que ça vient d'Inde, d'Afrique, peut-être un peu du Mozambique, peut-être de l'île de Pemba ou de Lamu à côté de Zanzibar. Enfin, on a des éléments comme ça, mais on ne sait pas exactement de quelle ville. Enfin, il n'y a pas le... On ne peut pas pratiquer un culte des ancêtres à proprement parler, parce qu'on ne sait pas qui sont ces ancêtres-là. Et cette question-là m'a toujours fascinée, parce que je crois profondément qu'on ne peut se construire que quand on connaît un petit peu ses racines, quand on est bien ancré dans ses racines. Et donc ce que j'avais comme matériau, eh bien, c'était un peu les traces un peu éparpillées, et donc comme Isis, ramassant les morceaux d'Osiris, j'ai essayé de ramasser un peu toutes les traces que je pouvais trouver. J'ai beaucoup questionné des grands-mères, des grands-tantes. Je parle énormément avec les personnes âgées qui sont dans ma famille. Et puis j'écoutais beaucoup. Je laissais un peu traîner mes oreilles partout. J'entendais parfois des tics de langage qui pouvaient dire une certaine hiérarchisation de la population, mais non dite, mais quand même présente dans certains tics de langage, certaines attitudes envers certaines personnes. Et donc en observant tout cela, eh bien, j'ai ramassé toutes ces traces-là pour en faire mon propre mythe, on va dire, ma propre mythologie.
Alors, je m'arrête tout de suite sur un mot que vous venez de prononcer, Toufat Moutard, hiérarchisation. Parce que ici, c'est une question qui apparaît d'emblée avec Gaillard, qui est donc une servante, esclave, troisième génération, qui sera mutilée à l'adolescence et avant cela qui va donc croiser le chemin d'Alima, qui elle est d'une condition plus riche, mais plus tard elle sera mariée de force. Et de fait, avec vous, on se dit que quelle que soit son origine, ici, finalement, la femme n'a apparemment pas de pouvoir et doit se rebeller pour s'en saisir. Est-ce que c'est un des premiers moteurs de votre écriture ?
Alors, ce n'était pas le tout premier. Je dirais que le premier moteur, c'était la question que je me suis posée tout au long de l'écriture de cet ouvrage. C'est est-ce que j'arrive à faire en sorte que les femmes présentes dans ce roman s'emparent de l'imaginaire, un imaginaire qui a quand même été pas mal monopolisé par les hommes, que ce soit l'imaginaire spirituel, purement religieux ou culturel tout simplement. Et comment elles arrivent à s'en emparer et est-ce qu'elles arriveront à se l'approprier ? Et pour moi, se l'approprier, c'est le transformer. Pour moi, s'approprier un héritage, ce n'est pas forcément le conserver tel quel. Et c'est souvent ce qu'on demande aux femmes, dans beaucoup de sociétés, hein, pas seulement aux Comores, mais on leur demande souvent, je trouve, de conserver quelque chose, d'être un peu les gardiennes du temple, la gardienne de ce qui doit être permanent. Or, l'histoire, la vie, la culture, la spiritualité sont impermanentes. Tout est impermanent. Et pour moi, il était important de faire en sorte que mes personnages féminins s'approprient cette impermanence-là et s'autorisent. Voilà, c'était ça. C'était s'autoriser à transformer ces imaginaires-là, ne plus forcément être dans la revendication, le combat dans lequel on peut les voir face au patriarcat comme des petites filles qui réclament leurs droits, mais plutôt comme des femmes adultes qui s'emparent de ce qu'on leur a laissé comme héritage et qui le transforment, qui deviennent elles-mêmes les alchimistes. Bon, j'ai jamais compris pourquoi il n'y avait que des alchimistes hommes, que des prophètes hommes, que des représentants spirituels masculins, et enfin, en tout cas ceux qu'on nous montre. Et c'est encore une fois un maître, un peu un maître spirituel que j'avais rencontré aux Comores qui me disait « Mais tu sais qu'il existe des femmes qui ont été des guides spirituels, etc. » Donc en entendant cela, je me suis dit « Mais c'est vrai qu'il suffit de le faire. Il faut juste s'en emparer et le faire. Et ça, c'est quelque chose que je peux faire. Donc, elles vont le faire. »
Mais on dit un peu la même chose quand même, parce que se réapproprier, s'emparer du savoir, de l'imaginaire, c'est bien aussi reprendre le pouvoir.
Tout à fait. C'est vraiment
c'est ce
reprendre le pouvoir.
Faire toutes les deux différemment. Et on va avancer dans le récit, puisque par exemple, cette réappropriation, elle passe par l'éducation. Et c'est ainsi que Gaillard est prise en charge par un maître qui lui apprend le Coran. Et d'ailleurs, sa mère adoptive, Tamou, y tient absolument parce qu'elle lui dit que c'est le chemin pour accéder au pouvoir. Et de fait, Gaillard adore ce livre sacré, même si elle y voit des interprétations féministes que les hommes réfutent évidemment. Et je me demandais, est-ce que c'est du courage ou de la colère de votre part de souligner en effet que la lecture du Coran a été détournée, déformée, vidée de son sens parfois, voire corrompue par ceux qui s'en réclament ?
Et je dirais que c'est peut-être de l'inconscience. Peut-être que c'est de l'inconscience, mais j'ai toujours eu un rapport très enfantin, très naïf avec ces textes-là. C'est naïf dans le sens où je me permets de m'émerveiller de choses que l'on a prises et que l'on a érigées en loi, en dogme. Moi, je trouve qu'il y a énormément de belles choses dans toutes les grandes écritures, que ce soit le Ramayana, le Mahabharata ou le Coran. Enfin, je trouve que c'est magnifique. Et je trouve que c'est dommage de laisser l'interprétation de ces ouvrages-là à une poignée de personnes. Je pense que chacun y lit ce qu'il veut. Hein. Chacun y lit, il y a d'ailleurs une phrase dans le Coran qui le dit, hein. Chacun me lit comme il le souhaite et chacun y trouve ce qu'il y cherche. Et donc je me suis posé cette question-là, mais qu'est-ce que moi j'y cherche ? Parce que pendant longtemps j'ai pu dire, bon, il n'y a que les hommes qui l'ont interprété, qui l'ont façonné à leur image, etc. ou à leur avantage. Puis à un moment je me suis dit, mais et moi dans tout cela ? Quelle est la lecture que j'ai envie d'en avoir ? Comment je veux le percevoir ? Et ce que j'y perçois, bah, c'est quelque chose de beau. J'y vois quelque chose de beau et puis j'y vois aussi des parts d'ombre, un peu comme dans les mythologies. Je suis une passionnée de mythologie grecque, égyptienne, hindoue, et on y voit les merveilles les plus époustouflantes, tout comme les horreurs les plus aberrantes. Et je me suis dit que finalement, c'était peut-être ça, la clé. C'était d'accepter que chaque texte avait sa part de beauté et sa part d'ombre, et que c'est comme ça, en fait. C'est le lot commun de l'humanité. Quoi.
Donc c'est ce que vous partagez avec votre personnage, Gaillard. Ce parti pris contre le fanatisme, tout simplement.
Tout à fait. En tout cas, ce parti pris contre une lecture unique d'un ouvrage qui, finalement, appartient à tout le monde. Hein. Oui, je dirais que c'est ce parti pris-là pour... C'est un parti pris pour se réapproprier quelque chose et de chercher ce que l'on a envie d'y lire soi-même.
Et c'est pour ça que c'est un roman, Le Feu du Milieu, qui pour moi parle de la transgression aussi sociale, la liberté qu'on prend. Gaillard, elle transgresse puisqu'elle devient donc amie avec Halima alors qu'a priori, elle ne devrait pas se parler. Il y a une transgression religieuse, on vient de l'évoquer avec vous. Et puis, il y a un autre sujet que vous abordez, Toufat Moutard, c'est l'amitié puis l'amour entre deux femmes, entre Gaillard et Halima. Est-ce que c'est un thème sensible, selon vous ?
Très. Je pense que c'est un thème très, très sensible. Et après, je pense que le lecteur verra aussi que je ne me sers pas de l'ouvrage comme d'une revendication quelconque, mais plutôt ce que je voulais montrer, c'est que les choses peuvent arriver de façon totalement naturelle et que les blessures unissent, finalement. Les blessures unissent. C'est ce que je voulais mettre en avant. Alors, je n'avais pas prémédité le fait que deux femmes puissent s'aimer, mais au fil du récit et pendant qu'elles étaient en train, toutes les deux, de me confier leurs blessures que l'une ou l'autre ne soupçonnait pas. Hein, Gaillard ne soupçonnait pas que Halima pouvait souffrir de quelque chose. Et Halima trouvait que Gaillard était quand même assez libre, parce qu'elle pouvait nager, elle pouvait faire certaines choses que Halima ne pouvait pas faire. Chacune enviait l'autre. Chacune regardait l'autre avec une certaine fascination. Et j'ai aussi voulu laisser planer ce doute-là. Est-ce qu'elles s'aiment parce qu'elles s'aiment ? Est-ce qu'elles s'aiment parce qu'elles sont fascinées l'une par l'autre ? Est-ce que c'est le statut de l'autre que chacune recherche ? Et puis toutes ces questions-là se sont posées de façon très naturelle. Et il était naturel qu'elles finissent par s'aimer, tout simplement. C'était le cours naturel des choses dans l'histoire.
بیا و بانم کم سرم را غافریدی فیا و بانم گل زرم با غافریدن آنم که سنگ آین سازم آنم که زر نوشین سازم آنم که هستم آین سازم آنم که هزر نوشین سازم.
Avec Outou Fat Mountaré et ce roman Le Feu du Milieu, on arrive dans Littérature sans frontières sur RFI. Un autre cœur du sujet, puisque pour échapper à sa condition de mortel, le fantastique intervient dans votre récit sous plusieurs formes. D'abord, il y a le pouvoir du feu, d'où le titre de votre roman, ce pouvoir que découvre Gaillard un jour un peu par hasard. Elle peut, avec ses mains, fendre la roche. Et mieux encore, le voyage dans le temps, avec la réincarnation dans d'autres corps et dans le corps des hommes, par exemple, d'autres lieux, d'autres époques. Que dit cette part de surnaturel dans votre vision du monde ?
Je dirais qu'elle témoigne d'un besoin de mythologie. Et étant donné que je ne voyais pas de mythologie comorienne ou africaine, qui m'emportait assez et qui était portée sur l'émerveillement, pardon, je me suis dit, mais c'est évident, ce qui me manque, c'est ça. Je n'ai pas envie d'un récit à charge, je veux plutôt un récit qui dise tout, mais vraiment absolument tout, sur une société et en même temps sur la condition humaine. Je ne veux pas m'enfermer dans la société dont je suis issue, ni la surglorifier, ni parler à charge, mais je veux plutôt voir en quoi est-ce qu'elle s'insère dans l'universalité. Et pour moi, les mythes, la mythologie, on fonctionne encore aujourd'hui avec des repères que l'on a tirés de la mythologie grecque dans les pays occidentaux. Donc je me suis dit, mais c'est ça la clé, c'est la mythologie. Et là, c'est vrai que j'ai également voyagé beaucoup et je me suis aperçue que... Enfin, j'ai décidé plutôt d'aller vers des directions dans lesquelles on n'attendait pas forcément ces deux personnages, puisqu'elles ne sont pas restées enfermées sur leur île ni sur les continents dont elles sont originaires, mais qu'elles viennent de partout. Et le message que je cherchais peut-être à faire passer maintenant que j'ai un peu de recul, c'est peut-être que finalement, on se pose tous la même question, où que l'on soit dans ce monde, c'est est-ce que je suis aimée pour moi, pour ce que je suis ? Qu'est-ce que les autres projettent sur moi quand ils disent m'aimer ou quand ils disent me détester ? Et comment arriver à m'aimer moi aussi, tel que je suis ? C'est pour cela qu'elle se retrouve parfois à explorer le corps des hommes aussi, pour se rendre compte.
Oui, dont un capitaine de navire espagnol. Et là, Gaillard, en même temps, Gaillard... J'imagine que vous avez fait exprès de donner un nom, un surnom à consonance masculine pour ce personnage féminin. Donc, de toute façon, la question des genres, pour vous, elle est poreuse.
Tout à fait. Tout à fait. Elle est... Alors, mes personnages féminins ont toujours eu un prénom... J'ai toujours eu des prénoms masculins qui me venaient en tête parce que je n'ai jamais eu envie de les enfermer dans, leur, dans une condition en particulier. Et aussi parce que je pense que ça traduit une envie d'aller voir ce qui se passe à côté. Vraiment d'aller voir ce qui se passe à côté, de s'ouvrir et d'aller voir ce que c'est que d'être un homme aussi. Je pense que c'était cela que je recherchais. Et puis en même temps, c'était un peu un pied de nez. Je voulais que mon personnage s'empare de quelque chose qui est très apparenté à l'identité masculine et dire voilà, bah écoutez, identité masculine ou pas, moi je décide de m'appeler comme ça. Et c'est ce que je suis ce que je veux. Donc ça, c'était très important pour moi. Et c'est vrai que le fait d'aller vers un capitaine de navire ou d'aller explorer les plaines ouzbèques, j'ai toujours aimé le récit épique. Hein. Dumas a fait partie de la littérature à laquelle j'ai été sensibilisée depuis très petite. Et je trouve que c'est magnifique parce que ça dit aussi le courage dont on peut faire preuve en tant qu'humain, mais aussi les petites lâchetés dont on peut faire preuve et les peurs que l'on a. Et le fait qu'être un homme aussi, ça peut être teinté de douleurs, de blessures. Et voilà, j'ai voulu explorer toute cette partie-là aussi, toujours avec le souci de ne jamais parler à charge, de ne pas donner de leçons, mais seulement d'observer au cœur.
Incontestablement. Merci beaucoup, Toufat Moutar. Je rappelle le titre de ce livre, Le feu du milieu, qui apparaît aux éditions Le bruit du monde.
Littérature sans frontières, en partenariat avec le magazine Books.
Et voici l'heure de notre chronique bimestrielle consacrée à Books avec notre confrère Baptiste Touvray. Bonjour.
Bonjour.
Le nouveau numéro, le 121 du mois de septembre et octobre, est donc sorti en kiosque et en librairie avec un dossier intitulé « Tous traumatisés ?» point d'exclamation, puisqu'en effet, force est de constater que les traumas à notre époque connaissent une inflation telle qu'on en trouve dans la littérature et dans les séries de plus en plus. Donc ça, je renvoie nos auditeurs à ce dossier tout à fait passionnant pour en savoir plus. Mais avec vous, nous allons parler d'un article que vous avez signé d'ailleurs, intitulé « Arthur, Lancelot et tous les autres », puisqu'en effet, il s'appuie sur la publication d'un nouveau volume traduit, Les Chevaliers de la Table Ronde, roman arthurien présenté par Martin Aurel et Michel Pastoureau. Et il s'agit là en effet de reprendre cette légende arthurienne qui sans doute est la plus grande création littéraire du Moyen-Âge, écrite en partie par Chrétien de Troyes. Et donc ici, c'est l'occasion de retrouver cette légende qui nous vient du Pays de Galles, c'est ça, Baptiste Touvray ?
On ne sait pas trop, et à la limite, la question des origines n'est pas la plus passionnante, on s'y perd, parce que tout ça s'est fabriqué au moment des invasions germaniques des îles britanniques, et d'une certaine façon, c'est une littérature de revanche, c'est-à-dire que les populations celtiques ont été balayées, et elles ont... sans doute à ce moment-là, inventer, peut-être à partir d'un personnage historique réel, cette figure salvatrice, de sauveur, en tout cas d'Arthur. Et l'une des conclusions à laquelle on arrive, c'est que s'intéresser à cette question, c'est sans doute perdre son temps.
En tout cas, qu'il ait existé ou non, Arthur est bien un personnage légendaire. Et puis, autour de lui, il y a toute une communauté des personnages. On parle même de 4 générations. Est-ce que vous voulez bien nous détailler, Baptiste Touvray ?
Oui, en fait, c'est Pastoureau qui montre ça à un moment donné, parce que l'appareil critique est développé et excellent dans ce volume. Il explique, c'est dans le dictionnaire des principaux personnages de la littérature arthurienne, qu'il y a d'abord la génération du père d'Arthur, Uther Pendragon, puis celle d'Arthur, puis en réalité la troisième génération qui est celle des principaux chevaliers qu'on connaît de la table ronde. C'est celle de Lancelot, de Perceval, de Tristan aussi. Tristan, qu'on ne relie pas nécessairement immédiatement à la légende arthurienne, et qui pourtant en fait partie, et qui, ça je ne le dis pas dans l'article, mais c'est dit dans le volume d'Aurel et Pastoureau, qui en réalité était sans doute le personnage le plus populaire. On s'imagine aujourd'hui que c'était Lancelot, parce que Lancelot, c'est le chevalier invincible, pratiquement. Mais Lancelot n'était pas populaire. Et Pastoureau se fonde sur les prénoms. Quel était le prénom qu'on donnait le plus aux enfants au Moyen-Âge ? Et Lancelot n'arrive pas du tout en premier. Tristan le devance très largement.
Lancelot qui, en plus, avait trompé le roi Arthur avec sa femme Guenièvre. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il avait moins de sympathie. Et puis ensuite, il y a les enfants.
Exactement. Mais alors là, ils sont très peu nombreux parce que cette troisième génération se reproduit peu. Il y a par exemple le fils de Lancelot, Galad, qui est celui qui va mener à bien la fameuse quête du Graal.
Alors, le Graal, voilà un terme qui est très intéressant parce que dans l'imaginaire collectif, c'est ce qu'on ne réussit jamais à atteindre. Évidemment, on a longtemps pensé qu'il s'agissait d'une petite coupe. En tout cas, c'est ce qu'on cherche toujours dans toutes les aventures. Et ici, ce qu'on apprend, c'est que Chrétien de Troyes, qui donc a inventé le Graal, au début, c'était pas du tout cet objet fantasmagorique. Racontez-nous ce que c'était, Baptiste Touvré.
En fait, ce qui est absolument fou dans cette histoire, c'est que Chrétien de Troyes, qui a inventé non seulement le Graal, il a inventé le personnage de Lancelot. C'est vraiment en fait quelqu'un qui a porté la légende arthurienne à son sommet. Mais effectivement, son invention la plus géniale, la plus durable, la plus fascinante, c'est le Graal. Et si elle est aussi durable et fascinante, c'est parce que le roman qui lui est consacré est un roman inachevé et qu'on ne sait pas exactement ce qu'il voulait faire du Graal. Et à partir de là, il y a eu des générations et des générations de successeurs et d'exégètes qui ont essayé de comprendre ce que c'était le Graal. Et le Graal tel qu'on connaît aujourd'hui, en gros, c'est le calice dans lequel Joseph d'Arimathée aurait recueilli le sang du Christ. On ne sait pas si... En fait, c'est une version très christianisée de ce qu'aurait pu être le Graal, mais ce n'est pas du tout explicite dans l'œuvre de Chrétien de Troyes. Et c'est l'universitaire Hélène Cooper, dans la London Review of Books, qui rappelait, et je la cite dans cet article, qu'au départ, le Graal, c'est un grand plat, comme il en existait beaucoup au Moyen-Âge, un grand plat dans lequel on mettait notamment le poisson. C'est-à-dire qu'elle a ce mot d'esprit assez amusant. Elle dit qu'en gros, le titre du dernier roman inachevé de Chrétien de Troyes, c'est « Perceval ou le comte du Graal ». Il faudrait le traduire par « Perceval ou le comte du grand plat à poisson
». Merci beaucoup, Baptiste Touvré, de nous avoir fait redécouvrir cette légende arthurienne par votre article à l'occasion donc de cette nouvelle publication « Les chevaliers de la table ronde », roman arthurien présenté par Martin Aurel et Michel Pastoureau, un volume qui a paru dans la collection Quarto chez Gallimard. Merci encore.
Merci à vous.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet « Podcast ». Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.